du Mons, une suite dans les idées en forme de conférences de presse autour de différents spectacles et événements qui ont lieu au Festival d'Avignon ces jours-ci. Avec nous autour de la table ce matin, le danseur et chorégraphe Joseph Nadge, Laure Adler, directrice de notre chaîne, Bernard Comment et Michel Didim qui nous parleront des différentes manifestations et spectacles proposés par France Culture à la Chartreuse, Jean-François Balmer et Laurent Godet pour Texte Nu, Onisos le Furieux, et enfin Laurent Mulezen pour le cycle de lecture de l'Europe de l'Est. France Culture en Avignon, ce n'est pas seulement un grand nombre d'émissions destinées à rendre compte des spectacles et des événements liés au festival, mais c'est aussi toute une série de manifestations pendant une semaine, de propositions, de spectacles, de découvertes de textes, d'espaces sonores et de réflexions qui, on peut dire, c'est un point d'orgue dans un travail, une recherche qui est menée tout le long de l'année sur France Culture et qui montre l'attachement donc de France Culture pour l'écriture théâtrale, pour la fiction. Et pendant cette semaine, Laure Adler, vous avez choisi un lieu qui est la Chartreuse, de Villeneuve-les-Avignon, qui est un lieu à la fois prestigieux et à la fois un peu à l'écart de l'agitation festivalière.
C'est pas mal d'être à l'écart pour pouvoir réfléchir, écouter, d'être dans cet espace de sérénité et de dialogue que constitue la Chartreuse. Effectivement, France Culture traverse le pont. Nous étions auparavant au musée Calvé. Je m'en félicite personnellement. L'expérience commence ce soir. J'espère qu'elle sera bénéfique à tout le monde, aussi bien aux artistes, aux comédiens, aux auteurs et aux spectateurs. C'est un lieu labyrinthique, c'est un lieu de réflexion et de nourriture spirituelle. Donc c'est exactement finalement les thématiques qu'on va tenter tout au long de cette semaine à 18h chaque soir pendant une durée d'une heure et demie de proposer à nos auditeurs, bien évidemment, parce que tous les spectacles sont enregistrés puis diffusés la semaine suivante sur France Culture entre 22h30 et minuit. Le thème de cette année est l'entrelacement entre la musique et le texte. On sait à quel point les musiques peuvent rentrer à l'intérieur de notre imaginaire et on sait aussi à quel point les mots peuvent résonner à l'intérieur de nous-mêmes. Donc nous avons tenté de passer, c'est notre honneur et c'est aussi notre grand plaisir toute l'année, de passer une politique de commande à des auteurs contemporains. Nous sommes aussi un lieu de proposition, de création, de risque. Et autour de cette thématique un peu générale, nous avons proposé à des auteurs aussi bien Lydie Salvert, Jean Hetzfeld, Hélène Sixous, etc., de travailler sur cette thématique et chacun, à sa manière, selon son chemin propre, a essayé d'imaginer des histoires. Hélène Sixous a revisité le mythe de Jeanne d'Arc. Jean Hetzfeld donne un prolongement à son livre magnifique et très profond sur ses récits de femmes rwandaises face au drame qui a endeuillé ce pays. Michel Butor va reprendre ses variations Diabelli à partir d'un dialogue musical avec Jean-François Isser. Bref, tout cela va tisser, nous l'espérons, une proposition artistique qui, à mon avis, est extrêmement moderne. Vous le savez, ce festival d'Avignon est de plus en plus contesté aujourd'hui dans son principe, mais je crois aussi que c'est l'idée de la représentation théâtrale qui est de plus en plus contestée. Il y a l'idée que faire du théâtre, c'est arriver en costume sur une scène, avoir des éclairages et donner véritablement le texte avec une sorte de réalisme. Eh bien, France Culture, qui à Avignon propose comme point d'orgue une politique de commande qui a lieu toute l'année, profite de l'intimité, de la sensualité que représente la radio pour donner des mises en espace, des lectures spectacles. C'est-à-dire que le spectateur va être confronté au texte et à la musique frontalement, sans avoir l'idée de cette surcharge d'imagerie qui peut-être aujourd'hui n'est plus tout à fait moderne.
Bernard Comment, vous êtes le responsable de la fiction sur France Culture. Alors comment vous voyez-vous ce moment d'Avignon dans une politique générale de la fiction sur France Culture? Qu'est-ce que ça représente cette semaine, avec ce que Laure Adler vient de nous dire, du point de vue de la commande, de la sollicitation de textes de la part d'auteurs auxquels la chaîne est particulièrement attachée.
Alors oui, d'une part, c'est un point d'orgue un peu d'une politique qui est menée toute l'année. C'est aussi une grande visibilité pour nous. C'est l'occasion de se faire voir. Pour une radio, c'est aussi important. On a une grande activité dans les studios. C'est quelque chose qui peut paraître parfois un peu caché, un peu mystérieux. Et là, c'est l'occasion de rencontrer un public. On le fait comme ça assez régulièrement dans l'année, mais là, il y a comme ça cette concentration de programmes. Alors, c'est vrai que cette année, dans la programmation, il y a l'ensemble, ce croisement texte et musique. On peut y ajouter aussi la proposition que nous avons faite. On voulait un grand auteur aussi, une espèce de grand parcours à travers une œuvre. Assez vite, on s'est dit qu'il y avait quand même la figure de Fernando Pessoa, dont les œuvres vont sortir cet automne dans la Pléiade. Et il se trouve qu'un des grands spécialistes européens de Pessoa, c'est Antonio Tabucchi. Donc on lui a demandé de nous proposer un parcours dans ce livre jamais classé, qui est le livre de la tranquillité, et pour lequel précisément tout classement est une proposition artistique. Et par rapport à cette proposition, il nous a aussi fait une proposition musicale qui est celle de faire entendre Viana da Mota, qui est un compositeur portugais de la fin du 19e, début du 20e, qui va être, je crois, une découverte aussi pour le public. Et puis, en amorce de tout ça, et en écho à un certain nombre de réflexions, de polémiques, et peut-être le sentiment d'un malaise qui se développe depuis quelques mois autour de la question, non seulement du théâtre, mais de la question des auteurs, on sait qu'il y a eu quelques gestes, quelques propos assez polémiques qui ont été lancés dès le printemps. Il nous a paru opportun de saisir l'occasion du Festival d'Avignon pour engager un débat approfondi qui fasse à la fois revenir les faits, la réalité des faits, à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne, pour des comparaisons qui pourront peut-être être utiles. Et ça débouchera donc sur demain, dimanche, sur cette journée des écritures contemporaines, qui croisera à la fois un certain nombre de débats, il y aura 3 tables rondes, et des lectures, parce que quand on parle des auteurs, je crois qu'il faut toujours faire attention à ne pas vouloir simplement s'en tenir à des propos théoriques, et il faut faire entendre cette voix des auteurs, qu'on entend beaucoup, hein, c'est une volonté qu'on sent très bien à Avignon de faire entendre ces auteurs. Eh bien là, on a voulu développer ça ou déployer ça à l'échelle d'une journée entière qui se tiendra donc demain à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon.
Michel Didim, alors quelle a été votre part dans cette entreprise des rencontres, de cette journée de rencontres de demain, mélange donc de lecture et de réflexion, de débat?
Bon, donc forcément, il y aura des jeunes auteurs qu'on va découvrir, d'autres qui confirment, comme Jeanne Savitskaya ou Alain Gautré. Et on découvrira donc un texte de Marc-Isaël Pelletier, qui s'appelle Sarah et Lorraine, qui sera lu donc à 18h. Et aussi une pièce de Éric Durnez, qui s'appelle La Fragmentation, qui sera lu vers midi et demi, puisque c'est une journée qui commence à 11h. Et qui verra donc s'associer des lectures et des débats, des réflexions sur l'écriture contemporaine. Et on s'est attaché à trouver de grands acteurs pour pouvoir porter cette parole. Je pense que c'est important de travailler avec des gens qui sont impliqués dans l'écriture contemporaine ou qui voudraient l'être davantage. Et donc, entre autres acteurs, nous travaillons avec Edith Scob, Garance Clavel et Catherine Matisse. Et puis, pour les garçons, Marcel Bozonnet, Grégoire Osterman, Denis Lavant et Bruno Sermon, entre autres acteurs, qui donc vont tout au long de la journée travailler sur des grands personnages ou des petits rôles. Ils sont comme une équipe, hein, qui prêtent leur voix pour cette journée des écritures contemporaines.
Merci. Merci à Bernard Comment, à Laure Adler et à Michel Didim. Donc France Culture, c'est à la Chartreuse pendant toute cette semaine, à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Merci. Joseph Nadge, bonjour.
Bonjour.
Le temps du repli, c'est un trio pour 2 danseurs et un percussionniste. C'est une pièce qui a été créée à Orléans en 1999 et que l'on peut voir actuellement en Avignon avec la même formation. Donc Vladimir Tarasov, percussion, Cécile Thieblémont, avec qui vous avez déjà travaillé, et puis vous-même. Alors, le temps du repli, ce serait des variations dansées, des pas de deux sur le thème du couple, avec ses maladresses, ses tendresses, ses tracasseries. Vous dites avoir attendu 10 ans avant d'aborder le solo et le pas de deux. Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps?
C'est essentiellement à cause de ma compagnie, qu'une fois on a sous la main une dizaine de danseurs et il faut les alimenter avec un travail. Donc, et voilà, il fallait trouver du temps d'abord et aussi et le désir de faire un duo est apparu justement avec le travail sur le spectacle Commedia Tempio, dans lequel effectivement avec Cécile déjà on a fait une petite pas de deux de quelques minutes. Que j'avais envie plus tard de développer avec elle.
C'était comme une sorte d'ébauche
Non, ça faisait partie du spectacle même, mais la formule, le duo, l'homme-femme, toujours je donnais une place importante dans toutes mes pièces, pratiquement, là où il y a deux femmes, pardon. Parce qu'il avait entre-temps deux pièces avec les hommes. Mais malheureusement, Cécile, elle est partie après pour faire d'autres expériences, notamment dans le théâtre, aussi avec la musique, et un peu dans le film. Et donc j'ai attendu qu'elle revienne. Donc, tout simplement, ça s'est produit il y a quelques années, donc elle a fait depuis ma dernière pièce, Le Veilleur. Et donc j'ai proposé donc, à elle qu'on reprend un petit peu cette expérience et qu'on le développe. Donc ça, c'est une pièce extrêmement simple dans le sens qu'on ne voulait pas avoir de références littéraires ou d'autres.
Contrairement aux veilleurs ou d'autres. Le texte de Kafka était très important.
Ouais. Et là, on a décidé vraiment de faire une pièce, disons, sur nous-mêmes, sur notre propre écoute, l'un par rapport à l'autre, parce qu'on a vécu, par rapport à ça, ce qu'on a vécu aussi, parce que nous, on a connaissé la vie de couple aussi à l'époque. Et maintenant, ça a changé. Maintenant, on se retrouve donc sur le plateau. Et on parle aussi, évidemment, de notre passé, de notre mémoire. Et on dépasse ça, quelque part aussi. On parle d'une manière générale de figure de couple. Oui.
Alors, peut-être qu'il ne fallait plus être un couple dans la vie pour pouvoir être un duo de danseurs sur la scène. Qu'il fallait cette distance.
En tout cas, c'est vrai pour notre spectacle. Ça, on ne pourrait pas donner cette rôle-là à quelqu'un d'autre. C'est tellement lié à notre propre gestuel, à notre propre passé, à nos façons de danser et à être ensemble. Donc je voulais faire un contrepoint et aussi je savais que ça sera très physique comme spectacle, et c'est. Donc c'est le plus physique parce qu'on ne sort pas du scène pendant une heure. Et c'est assez dansé. Et donc j'imaginais qu'un bon percussionniste pourrait faire l'affaire, qu'il pourrait nous donner cette énergie supplémentaire nécessaire pour accomplir cette tâche-là. Et donc, par hasard, on a fait une tournée dans le pays de l'Est, en Lituanie, où j'ai rencontré un musicien russe, d'origine russe, donc Vladimir Tarasov, que je connaissais par ce disque dont j'écoutais pendant des années dans le cadre de Ganielin Trio. Et ce trio était très important pour nous dans le pays de l'Est. Et depuis, donc, cette formation n'existe plus, il a fait beaucoup de concerts et de disques solo. Donc j'ai l'invité de voir le spectacle, on a joué les commentaires d'Abakuk, il est venu. Et donc j'ai lui proposé après, et il a accepté. Donc, et tout de suite, l'année d'après, donc ça il y a 3 ans, il était invité à un festival de jazz en Yougoslavie, dans ma ville natale d'ailleurs, où on est allé directement sur scène. Donc j'ai préparé avec Cécile déjà une demi-heure de jeu, et avant le concert, spectacle, on a répété une heure, donc on s'est mis d'accord pour quelques repères et ça allait tout de suite. Mmh. Donc c'est comme un miracle que ça allait. Et on s'est retrouvé après à Vilnius, on a rajouté à Budapest, on a rajouté chaque fois avec Cécile quelques séquences en plus, on a développé au fur et à mesure, mais toujours dans le vif. On allait tout de suite sur scène.
Mmh. Alors vous avez dit toujours à propos donc de ce spectacle, Le Temps du Repli, le couple contient la potentialité de tous les drames parce qu'il est porteur d'une culpabilité originelle. Quelque chose s'est brisé dans le couple primordial de la Genèse. Et dans ce spectacle, on essaye de recoller les morceaux. Parce que dans ce spectacle, il n'y a pas à proprement parler une histoire, un début, une fin. C'est plutôt une suite de tentatives d'approche, d'échange, justement un puzzle pour recoller les morceaux d'un couple.
Bah, c'est boucle par boucle, on recommence. C'est vrai qu'il y a comme une spirale infernale, qu'on commence à établir une situation, une tentative d'approche, et de temps en temps, donc, on alimente avec des énergies différentes, et ça s'envole ou ça s'apaise. Donc il y a une sorte de respiration à l'intérieur de la pièce, effectivement, on recommence sans cesse. Et notamment donc pour donner le pont, l'unité de spectacle, on a commencé avec une image assez importante pour moi, donc avec deux petits mannequins, figurines dans nos dos, qui représentent donc quelque part notre propre image, et nos ancêtres aussi quelque part, qui sont accrochés dans nos dos, qui regardent derrière nous, et qu'à la fin de la pièce, ça se retrouve devant nous dans la bouche, on le tient par la bouche, et qui remplace un petit peu la parole. Ce qu'on a essayé aussi comme matière à utiliser dans le spectacle, notamment avec une langue oubliée, l'ancien grec, ce qu'on a fait, une petite ricochet sur quelques phrases d'Antigone, comme c'est devenu une matière, un motif d'une langage qu'on a déjà oublié, entre guillemets, ce qu'on n'utilise plus. Donc, pour vouloir dire aussi quelque part qu'on a besoin d'aller vers le passé pour retrouver encore des éléments qui sont fuis dans notre mémoire.
Alors, pourquoi ce titre, le temps du repli? Parce que quand on voit la pièce, on a plutôt l'impression que c'est le temps de l'éveil pour ce couple, que le couple s'anime progressivement, qu'il se redresse progressivement, qu'il essaye de retrouver des figures possibles de l'amour. Alors pourquoi le temps du repli?
Ce que je considère qu'on a besoin d'un temps de repli d'abord sur nous-mêmes avant d'aller vers l'autre. Et donc au début du spectacle, on expose cette image de solitude aussi de chacun, et après on y va. Et aussi on a besoin d'un temps de repli protégé même pour le deux, une fois qu'on s'est retrouvé. Donc c'est au fond notre proposition.
Et est-ce que l'humour, l'ironie ont une part importante quand on veut danser le couple, entre guillemets?
Oui, c'est dans tous les coins de la vie, ça existe, l'absurde ou l'humour même, ou le regard même sur tous les sujets. En tout cas, moi, je ne peux pas composer autrement que d'avoir recours de temps en temps à l'humour noir ou à l'absurde, ou à l'ironie, l'auto-ironie aussi souvent. Donc ça fait partie effectivement de temps en temps, mais c'est pas un spectacle humoristique, je dirais, c'est plutôt de dramatique.
Mais oui, puisque vous l'avez mis sous le signe d'une malédiction originelle, ça ne peut pas être toujours très, très gai et très drôle. Joseph Nadj, merci. Le temps du repli, c'est à la chapelle des pénitents blancs, c'est jusqu'au 21 juillet. Dans le cadre du programme proposé par la SACD, texte nu, Jean-François Balmer lit Onisos le furieux de Laurent Godet. Onisos, c'est Dionysos, un peu moins dieu, un peu plus homme, je vous cite Laurent Godet. Alors c'est votre lecture du mythe de Dionysos, c'est votre construction à partir des fragments épars du dieu, du personnage de Dionysos qui préside quand même à la naissance de la tragédie. Le théâtre est là, d'emblée.
Oui, bonjour. Oui, bien sûr, le point de départ, c'est la figure de Dionysos. Mais ensuite, je n'ai pas du tout essayé d'écrire un texte avec une démarche d'historien ou d'archéologue. Enfin, je veux dire, je suis pas documenté à ce point-là. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de partir de cette figure-là et puis d'essayer d'y mêler aussi des bribes d'une antiquité autre qui serait pour une part mésopotamienne, pour une part égyptienne. Et ça, c'est des choses qui n'appartiennent pas au mythe, à proprement parler, de Dionysos. Donc, c'était essayer de faire un peu ce mélange-là et de voir, de voyager comme ça de l'Égypte à la cité de Troie, puisqu'il y a un passage qui raconte la chute de Troie et comment est-ce que le personnage de Dionysos participe à cette bataille-là. Donc c'est un peu un mélange de tout ça avec des épisodes effectivement qui appartiennent à la mythologie avérée et puis d'autres que je
vous avez inventé.
Que j'ai inventé, oui, absolument.
Alors cette pièce a déjà été donnée à Strasbourg, je crois,
oui.
Dans une mise en scène de Yannis Kokos, alors que là, dans le cadre de textes nus, justement, la règle du jeu, c'est de se passer du metteur en scène. Et c'est assez rare, je pense, Jean-François Balmer, qu'un comédien ait l'occasion d'être en contact direct avec l'auteur.
Non, moi ça m'arrive toujours.
Parce que vous jouez beaucoup d'auteurs contemporains.
Je joue des auteurs contemporains, c'est précisément pour rencontrer les auteurs. Alors moi j'avoue que je rencontre les auteurs, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que ce qui m'intéresse moins, c'est de jouer Molière, Marivaux, Racine ou Corneille, parce que, je veux dire, ça ne m'intéresse pas de faire forcément une interprétation inverse à celle qui a été faite. Tandis que là, je veux dire, j'ai la chance, et vous le voyez, de croiser Laurent Godet, et je trouve que c'est le plaisir, quand même, et le devoir d'un acteur de jouer des choses comme ça.
Alors comment Laurent Godet vous a aidé à vous mettre dans la peau de
Polizos, c'est-à-dire
moins Dieu et plus homme.
Il m'a aidé en m'envoyant son texte. Et puis le reste, ce sera pour lui également une surprise, parce que comme la règle du jeu veut que on s'occupe soi-même de son destin et du destin du texte, il va découvrir son texte en même temps que les autres.
Vous voulez dire qu'il n'a jamais assisté à cette lecture ?
Non, personne d'ailleurs. Personne. Donc, voilà, je trouve que c'est un texte extrêmement musical, c'est un texte fort, c'est un texte qui mérite le plein air, qui mérite, je veux dire, c'est un type qui va faire tomber ou fracasser Babylone, donc c'est peut-être un texte que mérite Avignon. Enfin, Avignon, dans l'idée que j'ai. Moi, c'est la première fois que je viens. C'est pas forcément... j'en viendrai pas forcément. Mais enfin, j'étais content. Je suis extrêmement content de dire ce texte. Moi, je suis pas vraiment un bon lecteur. C'est pas un exercice favori. Mais je trouve qu'il y a une matière absolument extraordinaire. Et que ce soit un auteur vivant, contemporain, c'est vraiment... c'est un truc complètement rassurant. Quoi.
Jean-François Balmer, donc vous avez reçu ce texte, vous avez travaillé, vous avez lu ce texte sans intermédiaire, donc sans metteur en scène. Est-ce qu'un comédien, dans ces cas-là, se sent libéré ?
De toute façon, les metteurs en scène, c'est comme les directeurs d'acteurs. C'est quand même des choses qui n'existent pas. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ces stupidités qu'on raconte depuis tellement longtemps ? Un metteur en scène, c'est quelqu'un qui vous propose un texte. Et puis voilà, c'est ça.
Et puis à vous de vous débrouiller.
Bien sûr, et puis quand il est intelligent, quand il a du talent, il vous aide un petit peu à aller dans la direction où vous souhaitez aller, et c'est tout. Je veux dire, il y a quand même, ça suffit, ces espèces de choses, il y a que des imbécilités qu'on colporte depuis tellement d'années. Non, alors le texte est formidable, Jean-Michel Ribes m'a proposé ça, et puis voilà, si on devait le jouer, il trouverait évidemment tout à redire, probablement. Ou alors simplement indiquer des directions, mais c'est tout, voilà.
Et l'exercice de la lecture, enfin cet exercice donc solitaire, vous disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas très
familier.
Je ne suis pas très
familier à la
alors,
lecture.
Alors justement, c'est une expérience nouvelle pour vous, ou
oui,
presque.
Enfin, j'ai lu une fois dans ma vie un texte des frères Goncourt, qui était quand même un journal tout à fait étonnant. Et puis, cette fois, donc, si vous voulez, non, c'est pas un exercice où je suis particulièrement à l'aise, mais enfin, j'essaie de limiter les dégâts, j'essaierai de lire pas trop mal, du mieux que je pourrais.
Donc, surprise à découvrir au musée Calvet.
Oui, mais enfin, surtout à découvrir le texte. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'en sortant, on ne se souvienne pas de la lecture, mais en ayant envie de lâcher le texte. Voilà.
Est-ce que je peux rajouter une petite chose ? Vous avez parlé de la mise en scène de Yannis Kokos qui avait eu lieu. Je voulais juste dire que en fait, le texte avait été lu par Hubert Gignoux sur France Culture en 1997.
Et que ça encore été... la preuve donc, que France Culture est souvent au départ d'une création.
Oui, absolument. Et c'est vrai que moi, j'ai très, très envie de voir aussi Léonisos se succéder comme ça. Et ce soir, c'est... Jean-François qui va offrir son corps, sa voix, son énergie, et ben moi j'en suis très heureux.
Voilà, Onisos le Furieux de Laurent Godet, lu par Jean-François Balmer dans la cour du musée Calvet.
Oui.
Dans la cour du musée Calvet, cycle de lecture de l'Europe de l'Est, c'est la deuxième édition, Laurent Mulesen, deuxième édition de cette manifestation dont le but est de faire découvrir, de faire connaître l'écriture dramatique contemporaine des pays de l'Europe centrale et orientale. Six textes, donc pour la plupart inédits et traduits sous l'égide de la maison Antoine Vitesse.
Oui, voilà. C'est un cycle de lecture que nous avons débuté l'an dernier, que nous avons proposé l'an dernier au Festival d'Avignon, et nous avons donc élaboré une coproduction qui est donc proposée par la maison Antoine Vitesse, dont j'aimerais dire deux mots. La maison Antoine Vitesse a été fondée il y a une dizaine d'années par des traducteurs, c'est-à-dire qu'elle met en avant le travail de ces travailleurs du texte qui sont les travailleurs de l'ombre, qui sont un peu ceux dont on ne voit pas forcément les noms sur les affiches, et qui ont pourtant un rôle fondamental qui est le rôle de découvreur et le rôle de passeur. C'est-à-dire que ces traducteurs sont en contact avec la culture et les textes des pays dont ils traduisent la langue. Ceux de la maison Antoine Vitesse sont très souvent des spécialistes de théâtre d'ailleurs, en même temps que des traducteurs ou des comédiens, parfois même des metteurs en scène. Et leur rôle est de passer ces textes, c'est-à-dire de les proposer au répertoire français. Et la maison Antoine Vitesse est là pour les aider, les défendre, mettre en valeur leur travail, en même temps que proposer au public français et au théâtre français des textes dramatiques venus d'horizons différents, de cultures théâtrales différentes.
Alors dans ce cycle de lecture de l'Europe de l'Est, on trouve des auteurs qui viennent de Slovénie, de Tchéquie, de Lituanie, de Serbie, de Hongrie. Est-ce que ce sont des auteurs qui sont connus dans leur pays? Est-ce qu'ils ont déjà été présentés en France? Est-ce qu'on a déjà pu voir leurs textes monter sur scène en France? Comment vous avez procédé à ce choix, à cette sélection?
Alors, les sélections sont souvent des sélections qui naissent des rencontres et des choix des traducteurs, ou alors de parcours que nous avons pu faire dans les différents pays. Nous ne traduisons pas que des pièces d'Europe de l'Est, nous traduisons des pièces du monde entier. Et pour certains des textes qu'on propose là, eh bien, il y a eu des rencontres. Il y a eu une rencontre à Sarajevo en septembre dernier dans le cadre de Étonnants Voyageurs. On a pu rencontrer l'auteur slovène, Matija Zupančić, l'auteur bosniaque, Almir Imsirević, et prendre contact également, non pas avec Dusan Kovacevic, qui est l'auteur serbe du Professionnel, parce qu'il n'était pas là, c'est un peu l'aîné de ce cycle, mais en tout cas avec son texte. D'autres nous ont été proposés par des traducteurs. C'est par exemple le cas du texte hongrois de Laszlo Darvasi, qui nous a été proposé par celui qui va le mettre en œuvre, qui va aussi le traduire, qui est Balázs Gera. C'est les textes, pour citer par exemple ce qui s'est passé l'an dernier, le destin de ces textes, parce que la chose n'est pas que de partir à la recherche de textes et de les faire lire, c'est également de les proposer au répertoire
d'ouvrir un avenir
et d'ouvrir un avenir sur la scène pour ces pièces-là. Parmi les pièces que nous avions proposées l'an dernier, il y avait un texte de cette jeune auteure serbe qui s'appelle Biljana Srbaljanović, le texte s'appelle La Chute, et c'était la première fois qu'un texte de Biljana était lu en France, et il y aura une production d'une de ses pièces au Théâtre de la Colline l'an prochain par André Wilms. Un des autres textes, qui était un texte bulgare de Margarite Minkov, qui s'appelle La Cheminée, va être produit au Théâtre Vidi de Lausanne par Jean-Quentin Châtelain et Cathy Matisse dans une mise en scène de Véronique Bellegarde. Et c'est ça qu'on a envie d'initier. C'est un travail de défrichage, c'est un travail de... On est un peu au début de la chaîne, travail de recherche.
Alors, bien sûr, ces textes, vous l'avez dit, viennent de pays différents, de cultures différentes, d'horizons différents. Mais est-ce que malgré tout, vous voyez une ligne de force qui se dessinerait à travers ces textes?
Eh bien, Ce qui nous avait intéressé l'an dernier pour une partie de ces textes, c'était comment s'écrivait le théâtre dans des régions qui avaient connu des bouleversements aussi radicaux ces 10 dernières années. Et surtout, l'écriture avant et après. Écrire sur la guerre, écrire alors qu'on est en exil, écrire alors qu'on est encore dans un pouvoir et encore protégé par ce pouvoir, mais que bientôt on ne le sera plus. Et la plupart des auteurs qu'on avait présentés avaient eux-mêmes connu des destins très, très difficiles. Enfin, le cas l'an dernier de Chovagovitch, qui était lui-même allé se battre contre les Serbes à l'époque de la guerre entre la Serbie et la Croatie, avait beaucoup influencé son écriture. C'était le cas de Minkov, qui est quasiment mort de faim en Bulgarie parce qu'il ne trouvait plus de travail dans des théâtres. Et pour cette année, on a mis l'accent, en dehors donc du texte Le Professionnel de Dusan Kovacevic, qui est un auteur établi dans son pays, un très grand dramaturge de Serbe, qui est par exemple le scénariste de Underground de Kusturica. En dehors de lui, on a voulu mettre en avant et offrir un tremplin en France à deux jeunes auteurs. Ils ont entre 26, 27 ans et 40 ans. Et leur perspective, par exemple celle de l'auteur slovène, Matias Upančić, n'est pas du tout une perspective d'écriture dans la guerre. Parce que la Slovénie est un pays très stable depuis une dizaine d'années, où on peut explorer des écritures, où on peut davantage s'occuper de la forme des textes, et pas tellement du rapport conflictuel entre un environnement en crise et comment écrire. À l'opposé, le texte de Dalmir Imsirevic, le Bosniaque, écrit à la fin du siège de Sarajevo, tourne essentiellement autour de ça. Comment écrire sur la guerre?
Merci Laurent Mulesen. Merci. Cycle de lecture de l'Europe de l'Est, c'est dans la cour du musée Calvet. Il y a quelqu'un qui aurait dû être là aujourd'hui, ce matin avec nous, et qui n'est pas là, c'est Félix Lachko, le violoniste que vous connaissez, Joseph Natch, parce que vous avez travaillé avec lui, parce que vous êtes né dans le même pays, je crois, hein, Voïvodine.
Oui.
De Lachko, je sais un particulier, qu'il est mutique dans les interviews, donc je suis presque soulagée qu'il ne soit pas là, mais j'aimerais que vous nous en parliez. J'aimerais peut-être, pour commencer, qu'on entende un peu de la musique de Lachko. Voilà, donc c'est la musique de Félix Lachko, le violoniste, qui a 26 ans et qui est né le même jour, enfin, et qui partage avec Beethoven, en tout cas, le même jour de naissance. C'est dire s'il est né sous des bons auspices. Alors, vous avez travaillé avec lui et on dit de Félix Lachko que c'est un musicien inclassable. J'ai même lu, c'est l'archétype du musicien autodidacte. Alors, est-ce que vous partagez ces points de vue, ces définitions?
Oui, quelque part, c'est vrai. Bon, il faut dire qu'il s'agit d'un enfant prodige, déjà, dans la musique, un enfant terrible aussi, quelque part, par sa vie, par sa musique aussi. C'est vrai que je l'ai connu en tant que très jeune musicien, qu'il a essayé de s'approcher d'abord de la musique traditionnelle hongroise. Donc je l'ai croisé en Hongrie, dans des fêtes, avec son violon sous les bras, où il essayait d'apprendre comment on apprend vraiment, comment on peut apprendre cette musique, ça veut dire, à côté d'un maître déjà. Et donc, il progressait au fur et à mesure. Évidemment, il a étudié un peu le violon, mais il était viré de l'école parce qu'il était ingérable comme élève. Donc, il continuait, par contre, très très vite. Donc, il rencontrait des musiciens, notamment Dresch, qui va jouer aussi ici avec son quartet au festival. Donc il a fait partie de cet ensemble-là. Il a joué avec Sabadoche, dans le jazz contemporain hongrois. Mais je dirais qu'il joue mieux quand il est seul. Donc lui-même, il dit que c'est là qu'il est complet parce qu'il trouve difficilement de partenaires. Il faut le suivre, c'est vrai que c'est pas facile. Donc plusieurs journalistes ont essayé déjà de tirer quelques mots de lui. Qu'est-ce que c'est sa musique, comment il est incapable de parler, il n'aime pas. Il est d'accord sur une fait qu'il improvise sans cesse, c'est ça son élément, c'est vraiment l'improvisation. Et alors on lui a demandé, je me souviens une fois, et alors pourquoi vous ne jouez pas de composition? Il dit, oui, je suis en train de jouer mes compositions pendant mes concerts. Ça veut dire, quand il donne des concerts, ça c'est un état d'extrême concentration, de tension, dans lequel il récompose, il décompose ses matériaux musicaux, ce qu'il porte en soi-même. Donc il y a une grande dose effectivement de musique traditionnelle, mais aussi toutes sortes d'influences, tout ce qu'il écoute et qu'il voit aussi. Parce que si je me souviens un jour qu'il donnait un concert à Budapest, et on a essayé d'interviewer, il dit, bon, écoutez, je joue ma musique, mais en même temps, ce voyage de Subotica jusqu'à Budapest que j'avais effectué cet après-midi va apparaître aussi dans ma musique. Ça veut dire tout ce qu'il vit, il sent d'une manière ou l'autre.
Oui, vous parliez de cette façon de recomposer, de prendre des... un peu de faire son miel un peu de toutes les musiques, donc musique traditionnelle, musique tzigane, le jazz, le rock, le pop. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'éclectisme, au fond, qui pourrait le définir? L'éclectisme est, au bout de cet éclectisme, une invention qui est la sienne propre.
Oui, je ne sais pas, il ne sera pas d'accord avec toutes les étiquettes ou tous les styles. Et pour lui, c'est plutôt, il s'agit d'une ouverture, de... Et aussi, c'est lié aussi à son âge, à sa façon de vivre, cette côté d'extrême d'aller dans des fêtes et de partager sa musique et de vivre d'une manière comme ça, un peu bohémienne. Donc, en même temps, là, il traverse une phase où il m'avait dit récemment qu'il a besoin justement de se replier, vous savez, pour réévaluer un petit peu ce qu'il a traversé jusqu'ici, pour repartir, parce qu'il... Il en a besoin maintenant, après. Donc, là, ce qu'on a écouté tout à l'heure, c'était un extrait d'un disque, donc d'une période de sa vie où il a partagé avec une famille gitan de Subotica, de sa ville, la famille Kurina. C'est des excellents musiciens, donc je suis allé plusieurs fois dans le café là où il jouait. Et ils ont essayé de tourner, mais cette famille non plus, ils n'aiment pas et ils ne veulent pas voyager. Donc ils ont fait, on a cette empreinte de cette rencontre-là qui est aussi magnifique. Où il faut trouver des occasions spécifiques, genre comme un mariage. Donc si on les invite, donc ils vont venir et ils vont jouer toute la nuit. Et je crois que c'est le meilleur concert que j'avais la chance d'assister avec lui. Donc ce sont des concerts privés, je dirais, entre les amis, de concerts marathon, parce que s'il s'élance une fois, donc il a beaucoup de mal à s'arrêter, et jusqu'à le petit matin, donc on a assisté à des nuits magnifiques, surtout s'il est inspiré, où il trouve une acoustique, ou dans la nature, ou dans des lieux, alors ça peut aller. Donc on verra, il va interpréter une musique, ce qu'il n'a jamais joué, c'est sûr, donc il va improviser de début à la fin demain. Donc on verra, je suis curieux aussi de voir comment il va, cet lieu, comment il va agir sur lui, qu'est-ce qu'il va sortir.
Merci Joseph Nadje de nous avoir parlé de Félix Lachaud et de sa musique. Félix Lachaud dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Et on va voir, on saura si ce sera encore un marathon du violoniste hongrois. Merci à tous.